Bonsoir à chacun. Je vous invite sans plus tarder à prendre vos Bibles et à ouvrir le psaume, ce psaume qu'on connaît tellement bien, le psaume 23, qu'on pourrait presque citer de mémoire tellement on le connaît. Mais on va quand même le lire ensemble et on va essayer de voir ensemble ce que Dieu désire nous communiquer ce soir encore par son esprit. Psaume 23, verset 1er, cantique de David. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Est-ce qu'il n'est pas magnifique ce psaume ? C'est pas pour rien qu'il est un des plus connus, un des psaumes les plus connus, parce qu'il est tellement beau, il parle tellement de lui-même. Et j'aime cette façon dont Dieu a choisi de se révéler aux hommes. J'aime cette façon surtout que le psalmiste David a écrit ce psaume et la façon dont il a décrit Dieu. Lui qui était berger, lui qui connaissait ce métier de berger, puisqu'il en était un. Et il est dit quelque part, non, c'est le psaume 78, il est dit que Dieu a pris David de derrière les brebis qui allaitent pour paître son peuple. Et Dieu avait choisi David particulièrement, et il avait vu en David quelqu'un de bon, quelqu'un de droit, et il l'avait vu, pas parce qu'il était au service de Saül, pas parce qu'il faisait de grandes choses, et pas parce qu'il faisait des actes éclatants aux yeux des hommes, mais parce qu'il est gardé des brebis. Derrière les brebis qui allaitent. Quand on lit ça aujourd'hui, presque c'est quelque chose de méprisable. Mais pour Dieu, quand il a vu ce jeune homme qui gardait les brebis, et quand on lit l'histoire de la façon dont il faisait, il ne se contentait pas de les garder, mais il mettait son cœur pour les garder. Quand il voyait un lion arriver, quand il voyait un ours arriver, lui, il restait là. Je ne sais pas si nous, on resterait là. En voyant un lion ou un ours arriver, lui, il restait là parce que c'était ses brebis. Il ne fallait pas qu'il en manque une. Et quand il a écrit ce psaume, David, il avait en pleine conscience de chaque mot. Chaque mot était pesé. L'Éternel est mon berger. Il a compris ce que ça signifiait que d'être un berger, non seulement d'être un berger, mais aussi d'être le berger d'un peuple. Parce qu'il a été le berger du peuple d'Israël. Il a été le roi. Et à cette époque, quand on parlait du berger, c'était vraiment pas seulement le paysan au fond de sa campagne. Il y avait toute cette relation de proximité de quelqu'un qui est devant un troupeau et qui manifeste toutes sortes de soins envers les brebis. Et donc, quand on parlait d'un berger aussi, c'était pour parler du roi. Et donc, c'était quelque chose d'honorifique. Nous, aujourd'hui, souvent, c'est ce que je disais, on pense à celui qui est au fond de sa campagne, loin, perdu, reclus, tout seul, isolé, qui parle un patois que personne ne comprend. Mais il y a bien plus que ça dans ce psaume. L'Éternel est mon berger. Et Dieu a choisi de se révéler aux hommes sous cette image, en prenant cette comparaison du berger. Il aurait pu choisir, si on veut être biblique, il aurait pu choisir notre métier, le pêcheur. Sauf qu'il n'a pas choisi le métier de pêcheur. C'était les disciples qui étaient des pêcheurs. Et il en a fait des pêcheurs d'hommes. Mais Dieu, il ne s'est jamais comparé à un pêcheur, dans ce sens-là. Il s'est comparé à un berger. Et aujourd'hui, il aurait pu se comparer à un ingénieur, à un directeur de multinationale ou à un trader. Tous ces métiers un peu à la mode, qui sont un peu frappent les yeux. Mais il n'a pas choisi. Il a choisi un métier simple. Et ce métier, ce n'est pas innocent qu'il ait choisi. Cet attachement toutes ces caractéristiques qui reposent sur ce métier, c'est pas innocent que Dieu ait choisi le métier de berger pour se comparer comparer à la façon dont il aime les hommes. Pourquoi Dieu a choisi ce métier? Pour faire connaître sa bonté et sa bienveillance envers les hommes. Moi, quand je pense à un berger, je pense tout de suite à quelqu'un. J'ai l'image du berger qui prend une brebis dans les bras. Celle qui est fatiguée va la prendre dans les bras. Il y a cette proximité, il y a cette douceur. Là, on sait que la brebis, c'est pas un animal farouche. Il suffit qu'il y ait un petit bruit ou quoi, la première chose qu'elle fait, c'est, et la seule moyen de défense qu'elle a, c'est la fuite. Elle peut rien faire d'autre. Donc le berger, il doit apprendre toutes sortes d'attitudes et de façons de faire qui sont dans la douceur, dans le calme, pour ne pas effrayer les brebis, parce que non seulement elle s'effraie vite, mais elle effraie vite les autres en plus. Ça se communique. Et le problème, c'est qu'après, ça part en waï, comme on dit. Ça part dans tous les sens. Mais Dieu, il a choisi de se comparer à un berger. Et si Dieu est le berger, ça signifie que nous sommes les brebis. Et peut-être que ce n'est pas glorifiant d'être une brebis pour l'homme. À première vue, ce n'est pas glorifiant. Parce que la brebis, on l'a dit, c'est quelqu'un qui a peur, un animal qui a peur, quelqu'un de fragile. Et pourtant, est-ce que ce n'est pas ce que Dieu demande? Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu nous demande? Lui, le roi d'Israël, David, je ne sais pas si c'est avant qu'il soit roi ou si c'est après, en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il a été roi d'Israël. Et que je pense que même après qu'il ait été roi, il a pu rechanter ce cantique, s'il avait écrit avant. Et il a dit, l'Éternel est mon berger. Ça veut dire que je suis la brebis de l'Éternel, même si je suis roi. Même si j'ai des grandes richesses, même si j'ai un pouvoir, si j'ai une influence sur beaucoup d'hommes, je suis une brebis devant l'Éternel. Donc si je suis une brebis, ça veut dire que j'accepte de me voir faible, de me voir démuni, de me voir petit par moi-même. Et que, quelles que soient mes richesses, quelles que soient mes qualités, quels que soient tous mes biens, quels que soient mes mérites, je suis faible, j'ai besoin aussi de quelqu'un d'autre qui soit devant moi. Si je suis une brebis, je suis dépendant de quelqu'un. Et je suis dépendant de quelqu'un qui est plus grand que moi. Ça signifie tout ça. Et ce soir, j'aimerais qu'on voit ensemble qu'est-ce que fait le berger, tout simplement. Et je voudrais vous dire que ça se résume en trois mots. Provision, protection et profusion. Provision, parce que le berger, il pourvoit, il prend soin de ses brebis, il pourvoit à tous leurs besoins. Il prend soin de ses brebis, il les soigne. Quand elles sont en santé, il les soigne, il leur donne les soins quotidiens. Mais quand elles sont blessées, il les guérit aussi. Il les soigne dans les deux sens. On a lu ensemble, « Je ne manquerai de rien. » Dieu peut satisfaire à tous nos besoins. D'ailleurs, l'apôtre Paul l'a dit si bien. « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse. » Est-ce que Dieu n'est pas riche? Si Dieu est Dieu, alors il est riche. Tout lui appartient. Et Dieu va pourvoir à nos besoins selon sa richesse. Et même si peut-être notre Père a été méchant avec nous, lui, il peut remplacer et être ce Père qu'on n'a jamais eu. Je suis parlé avec une personne une fois qui me disait que son Père avait été méchant, pas forcément en gestes, pas forcément avec des actes, mais avec des paroles. Et il y avait une blessure qui était là dans son cœur. Mais parce qu'elle avait compris que Dieu l'aimait et que Dieu aimait aussi son père, elle voulait aller faire la paix avec son père. Et moi je lui disais, mais c'est un des plus beaux cadeaux de Noël qu'on peut donner à quelqu'un, plutôt que donner une boîte de chocolat, faire la paix avec quelqu'un. Je me souviens de ce jeune homme aussi, qui dès qu'il a compris ce qu'était l'amour de Dieu, il a dit, je ne peux pas rester comme ça avec mes parents, il faut que je prenne l'avion, parce qu'il venait de la Guadeloupe, il faut que je prenne l'avion et que j'aille me réconcilier avec mes parents. Je ne peux pas laisser l'amour de Dieu comme ça. Il faut que je le mette en action dans ma vie. Et pour moi, ça se traduisait pour aller voir mes parents. Et quand il a fait ça, il n'a pas reçu forcément un accueil magnifique de ses parents qui l'ont accueilli les bras ouverts, mais lui, au moins, il a fait sa part devant Dieu. Et il était libéré. Et Dieu veut répondre à tous nos besoins. Dieu veut répondre à exactement tous nos besoins. C'est pour ça qu'on peut dire « Je ne manquerai de rien ». Rien dans ce monde ne peut répondre à tous mes besoins. Aucun homme ne peut répondre à tous mes besoins, mais seul Dieu peut le faire. J'ai pris la version littérale du texte. « Il me fait coucher dans des pâturages d'herbes vertes ». C'est ça qu'il est dit. « Il me fait coucher dans des pâturages d'herbes vertes ». Dans de verts pâturages, c'est la même chose. Mais Ça nous parle de cette herbe verte, ça nous parle de cette nourriture que l'on peut trouver en Dieu. Le monde, il nous offre beaucoup de nourriture, il nous offre beaucoup de choses. Mais quand on les jauge et quand on les juge, quand on apprécie leur valeur, on se rend compte qu'elles ne nourrissent pas. On se rend compte que ça nous laisse vide. On se rend compte que la faim qui est là dans notre cœur, que tous les hommes ont dans leur cœur, on se rend compte qu'elle n'est pas satisfaite, cette faim. Il n'y a que la nourriture, l'herbe verte de la parole de Dieu, l'herbe verte où Dieu peut nous emmener. Il n'y a que cette nourriture-là qui peut nous satisfaire, qui peut vraiment combler ce vide qui est en nous. Et c'est la promesse de l'Éternel. On sait que ce bon berger, que Dieu est ce bon berger et qui va nous emmener dans de verts pâturages. On sait que quelle que soit la faim que l'on a dans notre cœur, Dieu peut répondre. Quelle que soit la question que l'on a dans notre cœur, Dieu peut y répondre parce qu'il est le bon berger. Et quand il est question de bon berger, c'est plus que bon. C'est pas seulement bon dans le sens dans lequel on entend, qui fait preuve de bonté, mais c'est excellent, c'est meilleur. C'est dans ce sens-là. L'Éternel est le meilleur berger. L'Éternel est le plus grand berger. Si on pouvait avoir un plus grand exemple au monde, eh bien, ça serait Dieu. Parce que il met tellement d'émotion dans ce qu'il fait, il met tellement d'amour dans tout ce qu'il fait en prenant soin des hommes. Il me dirige près des eaux paisibles ou près des eaux de repos, près de ces eaux qui me donnent le repos. Est-ce que dans ce monde dans lequel on vit, il n'y a pas besoin de ce repos justement? On en entend parler avec Monsieur Go, et on sait que c'est quelque chose d'actuel, on sait que c'est quelque chose de vital, et c'est la promesse que l'Éternel nous fait. Il me dirige près des eaux paisibles, il me conduit auprès des eaux de repos, ces eaux où je peux trouver le repos. Il n'y a que l'Éternel qui peut me conduire à ces endroits où je peux trouver le calme, la confiance, alors que tout s'agite autour de moi, alors que tous les hommes peuvent s'inquiéter, tous les hommes peuvent être apeurés par ce qui arrive, par le futur, par la crise, par la non-croissance, par le chômage, toutes sortes de choses qui sont là pour inquiéter les hommes. Dieu, il n'a pas dit qu'il nous amènera, il nous conduira dans le repos seulement si tout va bien. Il a dit qu'il conduira, il nous dirige, c'est-à-dire que c'est tout le temps près des eaux paisibles et que continuellement, jour après jour, on peut venir goûter à cette eau paisible de sa présence si on s'attache, si on croit en lui véritablement. Ça, c'est la promesse de l'Éternel. Et on a entendu, peut-être, certains l'ont vu, je ne l'ai pas vu, j'ai juste rapidement lu le résumé, des vœux présidentiels. On nous a promis toutes sortes de choses, que le chômage, justement, serait annihilé complètement, enfin, pas presque. On s'efforcerait de penser à pouvoir y penser, justement. Parce que les hommes, ils sont impuissants face à toutes ces choses. Mais Dieu, lui, quand il nous dit quelque chose, ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit, la Bible nous dit. Et on a cette confiance que tout ce qu'il nous dit, s'il est Dieu, justement, s'il dit quelque chose, eh bien, il va le faire. Parce qu'il est Dieu, parce que c'est sa nature. Il restaure mon âme. L'Éternel est ce berger qui veut guérir la brebis qui est blessée par la vie, blessée par toutes sortes de choses, blessée comme la dame dont je parlais, par des paroles peut-être, blessée par des attitudes de certaines personnes, blessée. Il y a toutes sortes de choses qui nous blessent. Des fois, c'est le passé qui est là et qui reste une blessure pour nous. Des fois, c'est la maladie, tout simplement. Mais le berger, dans tous ces cas, il veut nous guérir. Des fois, c'est notre cœur qui est totalement brisé. L'Éternel est là. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, justement. L'Éternel, quand il voit un homme qui est blessé par la vie, blessé par quoi que ce soit, il est ému de compassion. Et quand il a vu la ville de Jérusalem, quand il a vu la foule qui l'entourait, la Bible nous dit qu'il a été ému de compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont point de berger. Et parce qu'il savait que lui pouvait être leur berger. Jésus pouvait être leur berger. Et ce soir encore, Jésus peut être le berger de quelqu'un. Il est déjà notre berger à nous qui croyons en lui. Mais Jésus peut être pour quelqu'un son berger, celui qui va le guider, celui qui va lui permettre de découvrir toutes ses bénédictions, tous ses verts pâturages, toutes ses eaux de repos. Parce que c'est sa promesse. Il me guide dans les sentiers de justice à cause de son nom. Et je voudrais m'attarder ce soir plutôt, pas sur les sentiers de la justice, mais sur le nom. Sur le nom de Dieu, sur le nom de ce berger. Et j'ai trouvé intéressant, parce qu'il y a tellement de noms dans la Bible, tellement de noms qui nous parlent de Dieu, qui nous décrivent ce que Dieu est, j'ai trouvé intéressant de qualifier le nom du berger et de prendre ce nom en particulier. Notre berger, notre bon berger, il est l'agneau de Dieu. C'est-à-dire qu'il ne se contente pas d'être le berger, celui qui est devant et qui ordonne « Allez, on me suit maintenant ». Mais non seulement il est le berger, mais il se met aussi à la place des brebis. Il est venu, la Bible nous dit qu'il est venu comme un simple homme, même comme un serviteur. Il s'est non seulement abaissé à être un homme, mais il s'est abaissé à être un serviteur des hommes en plus. Donc il sait ce que c'est que d'être une brebis, parce qu'il a été une brebis. C'est l'apôtre Jean qui nous dit qu'il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est Jean-Baptiste, quand il a vu, il a fait cette déclaration. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà le nom du bon berger. C'est l'agneau de Dieu. Ça signifie que non seulement il s'est mis à la place pour savoir ce qu'on allait vivre, pour savoir même nos tentations, pour savoir toutes les choses que nous pourrions vivre sur cette terre, mais non seulement cela, mais il s'est mis aussi à notre place, dans ce sens qu'il a pris tout notre péché. Lui qui était pur innocent, il s'est donné à la croix et il est mort. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et par sa mort, il a cloué à la croix l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Toutes ces choses qui nous condamnaient, tous ces jugements qui étaient là contre nous, parce que nous étions mauvais, parce que nous étions pécheurs, Dieu l'a cloué à la croix au travers de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu qui a été immolé. Voici le nom du bon berger, c'est l'agneau de Dieu. Et dans toutes ces choses, on voit que le bon berger, Dieu, nous donne... nous pourvoir, il pourvoit tous nos besoins, il nous donne sa provision divine. Mais il nous donne non seulement ça, mais il nous donne aussi sa protection. On a la protection quand on suit le bon berger. Le berger, il défend ses brebis contre ceux qui les attaquent. Il va aussi retrouver et sauver les brebis perdues, ou qui se sont laissées piéger, qui sont emprisonnées quelque part, qui sont tombées. Il y a cette parabole, on peut la lire, c'est dans Luc. Chapitre 15, parce qu'elle est très courte. Luc chapitre 15, il nous rappelle cette parabole que Jésus a employée. Luc chapitre 15 et le verset 3. On peut même lire le verset 1 pour voir à qui Jésus a adressé cette parabole. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux ». Mais il leur dit cette parabole. Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse les 99 autres dans le désert pour aller après celle qu'il a perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a trouvée, il la met avec joie sur ses épaules et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai trouvé ma brebis qui était perdue. » De même, je vous le dis, il n'y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Voilà une démonstration de la protection divine. Notre bon berger, Dieu, il ne reste pas les bras croisés en voyant une brebis qui est perdue. Il ne reste pas les bras croisés totalement insensibles, indifférents au sort de l'homme qui est perdu. Mais il a envoyé Jésus-Christ déjà pour pouvoir... pour pouvoir avoir cet accès avec lui, pour pouvoir avoir cette communion qui avait été perdue, pour pouvoir rétablir tout ce qui avait été perdu. Justement, on a lu qu'il restaure notre âme, mais c'est-à-dire qu'il fait revenir notre âme comme elle était avant, en parfaite communion. Mais le péché est venu et a tout brisé. Mais notre berger, il est celui qui nous protège. Alors il va venir nous défendre. Comme David, il a défendu contre les loups, contre les ours, contre toutes ces difficultés dans la vie que l'on peut rencontrer. Mais non seulement ça, il va aussi venir à notre rencontre quand on est perdu. Peut-être ce soir, quelqu'un est perdu, tout simplement perdu dans ses pensées, perdu dans la multitude de choix qui s'offrent devant lui. Mais l'Éternel veut être ton bon berger pour te faire aller dans les sentiers de la justice, justement, pour te faire marcher dans la voie, dans le chemin qu'il a tracé pour toi. Et sache que tout le temps où tu vas rester perdu, l'Éternel ne va pas être insensible, mais il va chercher à te retrouver. Il va chercher, il va mettre tous ses efforts, et par son Saint-Esprit, par sa parole, par toutes sortes de moyens, par sa providence divine, par toutes les circonstances de la vie, il va essayer de t'amener à leur trouver lui. Ça, c'est notre bon berger. Le berger, il a une houlette, ça on le sait tous. Ta houlette et ton bâton me rassurent. La houlette du bon berger, il y a un endroit dans la Bible où elle est qualifiée de... C'est la grâce. La grâce. Par la grâce de Dieu, Dieu vient nous saisir, Dieu vient nous... Vous savez, là, avec la houlette, le berger, il pouvait saisir un animal pour lui prodiguer des soins, mais quand il était tombé peut-être dans un ravin, il pouvait essayer de l'attraper avec sa houlette. C'était un long bâton avec un crochet. Et par la grâce, Dieu essaye de saisir l'homme dans son péché. Mais l'homme qui va se repentir, l'homme qui par la foi va croire en Jésus-Christ, en cette œuvre de la croix, en sa résurrection, par la grâce, Dieu va pouvoir le saisir. Dieu va pouvoir lui tendre la corde de la miséricorde, justement. Parce qu'il est le bon berger. C'est un de ses outils, c'est normal. Voilà pourquoi Dieu a choisi cette image pour tous ses symboles. Et ce que j'aime aussi dans le psaume 23, on va y revenir, ce que j'aime, c'est que il est dit cette chose, on va le lire ensemble. Le relire, plutôt. Au verset 5, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. » Est-ce que vous ne trouvez pas ça bizarre, quand même? Quelque part. Moi, quand j'ai lu ça, pour la première fois, j'ai trouvé bizarre. La brebis, enfin, David, il a des adversaires, et puis Dieu, le bon berger, il lui dresse une table devant. Nous, on lui dirait, mais tu as des adversaires, mais prépare-toi au combat, jeûne et prie, invoque le Seigneur. Et pourtant, Dieu lui dit, voilà, tu as un combat à livrer, peut-être, du moins tu as des adversaires. Est-ce que tu as un combat à livrer? Je ne pense pas. Tu as des adversaires, des personnes qui t'en veulent, peut-être. Et moi, je dresse devant toi une table. Et j'ai pris littéralement, il installe une table vis-à-vis de ceux qui m'attaquent. On voit bien que c'est les personnes qui attaquent, c'est pas... David qui va attaquer les personnes. Ce que Dieu fait quand les personnes... Et ce que Dieu désire, du moins, que nous fassions quand les personnes nous attaquent, il désire que nous mettions à table de ses bénédictions. Il ne désire pas qu'on aille combattre ces personnes. Ce n'est pas contre la chair et le sang que nous devons combattre. Mais quand des personnes nous en veulent, nous devons venir à la table du Seigneur, tout simplement. De venir nous installer à cette table que le Seigneur met devant nous. Et il nous dit, non, ne va pas les attaquer, ne choisis pas de répondre au mal par le mal, ne choisis pas de répondre par la haine à ceux qui t'en veulent. Choisis de prendre à ma table, de prendre l'amour, de prendre la grâce, de prendre la paix, de prendre toutes ces choses que je mets à ta disposition. Choisis de répondre de cette manière envers ceux qui t'attaquent. Et tu verras, c'est comme ça que les problèmes vont se résoudre. C'est pas en allant te confronter aux problèmes que ça va se résoudre, mais c'est en t'installant à ma table, tout simplement. Et il est dit aussi, tu oins d'huile ma tête. Et là, c'est à l'époque, c'était un geste coutumier pour honorer un invité. Et là, c'était en l'occurrence une huile de parfum. Quand on invitait quelqu'un à notre table, on versait sur lui un parfum. Ça ne voulait pas dire qu'il sentait mauvais, hein ? C'était pour l'honorer. Aujourd'hui, ça serait mal interprété peut-être. Mais à cette époque, c'était un honneur. Et l'Éternel, il nous dit, quand tu as des adversaires, viens à ma table, moi je vais répandre ma bonne odeur, la bonne odeur de Christ sur toi. Je vais répandre ma bénédiction sur toi, je vais répandre mon Saint-Esprit sur toi. Et ma coupe déborde. Et là, c'est, tu remplis ma coupe de surabondance. Ça, c'est la promesse de Dieu. Tu remplis ma coupe de surabondance. Voilà pourquoi j'ai dit que la troisième qualité du berger, c'est la profusion. Dieu donne avec abondance, avec profusion. Il donne sans compter, sans mesure à ses brebis. Et quand on regarde le berger dans la vie actuelle ou dans la vie passée, et en passant, j'ouvre une parenthèse, on se rend compte que le berger, c'est un des métiers éternels. Parce que je pense que ça fait depuis le début de la création jusqu'à aujourd'hui qu'il y a eu des bergers. Parce que quand l'homme a été créé, Dieu lui a dit « tu domineras sur les animaux ». Et le premier métier d'Abel, c'était berger. Donc c'est un des métiers, je vais dire, éternels. Voilà pourquoi aussi Dieu, l'Éternel, a choisi de s'appeler, de se comparer du moins à un berger, et de s'appeler le bon berger. Et je referme la parenthèse. Mais Dieu nous donne avec abondance. Et le berger, quand on regarde sa vie, on se rend compte qu'il passe beaucoup de temps avec les brebis. Il ne se contente pas d'ouvrir la porte pour qu'elles aillent brouter et puis lui de partir, d'aller sur Internet, de passer sa journée avec sa famille et puis il revient le soir. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Il passe du temps, il les surveille, il les garde. Alors bien sûr, il a peut-être aujourd'hui il a des outils technologiques, je ne sais pas comment ça se passe. Je sais que du moins il a des bergers, il a des chiens de berger, il a des aides pour justement contribuer à ce travail, mais il donne beaucoup de son temps. Et non seulement il donne beaucoup de son temps, il donne aussi beaucoup d'amour. Il ne peut pas approcher les brebis, on l'a dit tout à l'heure, il ne peut pas les approcher comme ça, à l'arrache. Il ne peut pas les approcher en faisant du bruit, en étant brusque, en faisant des mouvements rapides. Il faut qu'il emploie de la douceur. Il faut qu'il soit dans le calme. Quand il leur parle, il faut qu'il ait une voix douce. Il faut qu'il donne de sa personne. Et je lis pour vous ce verset. C'est dans Jean chapitre 10, verset 1. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et il les conduit au dehors. Le berger, il donne en abondance, il donne avec profusion. Et une des choses qu'il donne avec profusion, c'est son amour. Et comme il donne avec profusion son amour aux brebis, il ne se contente pas d'avoir des brebis, un certain nombre de brebis, mais comme on l'a lu dans la parabole, même s'il y en a une qui se perd, il le sait, il est déjà au courant. Nous, peut-être, on passerait par là, et qu'il y en ait une de plus ou de moins, on ne se rendrait même pas compte parce qu'on ne les connaît pas. On ne sait pas qu'elle a une tache sur l'oreille, on ne sait pas qu'elle a tel aspect, qu'elle a les yeux de telle couleur. Je ne sais pas si c'est les brebis en plusieurs couleurs d'œil. Mais enfin bref, imaginons. En tout cas, le berger, lui, il est au courant des moindres détails. C'est ça que je veux dire. Donc le berger, dans sa profusion d'amour, il va même les connaître par leur nom. Pour lui, ce n'est pas des brebis quelconques, c'est ses brebis. Et ce n'est pas la brebis qu'il pointe du doigt, ce n'est pas une quelconque brebis, c'est telle brebis qu'il connaît parfaitement. Il sait quelle blessure elle a eue, il sait quels soins elle lui a donné, il sait quelle est sa maman, quel est son papa, etc. Il sait toutes ces choses parce que il est dans la profusion d'amour. Ça, c'est notre berger. Et il s'intéresse personnellement à chacune des brebis. Et notre berger, notre bon berger, Dieu s'intéresse à chacun des hommes individuellement. Et pour répondre à cet intérêt, mais à cet amour que Dieu procure à tous les hommes, il faut que chacun individuellement nous connaissions Dieu. Non seulement il faut que nous connaissions Dieu, mais il faut que Dieu nous connaisse vraiment. Il faut qu'il y ait une communion, c'est dans ce sens-là, il faut qu'une communion s'installe entre la brebis et le berger, comme la communion dont s'est installée entre nous et Dieu. C'est ce que Dieu désire. Non seulement la profusion de son amour, la profusion de ses promesses aussi. Jean chapitre 10, verset 2, c'est la suite. « Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. » Le portier lui ouvre, je l'ai déjà lu, pardon. Alors c'est le verset 4. « Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivront point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » La profusion des promesses de Dieu. Dieu, il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et en l'occurrence, il parle souvent par sa parole et par les promesses de sa parole. Ça, on en est certain. Mais il faut qu'on apprenne, en tant que brebis, à connaître la voix du bon berger. Il faut qu'on apprenne à discerner cette voix. Et ce soir, si on faisait pendant un certain temps, pendant quelques minutes, silence dans nos cœurs, si on faisait taire toutes ces voix, toutes ces agitations qui sont là, tous ces bruits extérieurs, et qu'on écoutait véritablement la voix du Saint-Esprit, le bon berger qui est en train de parler à notre cœur, vous savez ce qu'on entendrait ? On entendrait cette voix douce et réconfortante qui nous dit « Ne crains pas, je suis doux et humble de cœur. » Je ne suis pas un homme pour mentir. Toutes mes promesses, elles s'accomplissent. Mes promesses sont véritables. On entendrait toutes ces choses. Que la paix soit avec vous. Ça, c'est les paroles de Jésus. C'est les paroles qu'il veut donner à notre cœur. Non seulement nous donner ces paroles, mais nous les donner en tant que promesses pour qu'elles s'appliquent à nos vies. La profusion des promesses de Dieu. Et une dernière profusion, c'est la profusion de la vie. Jean chapitre 10, verset 10. Jésus nous dit « Je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » La profusion de la vie, ça c'est ce que Dieu nous dit. Il veut que les brebis aient la vie en abondance. Et souvent, les hommes s'appuient sur telle et telle personne, ou sur tel et tel métier, ou sur telle et telle richesse, pour qu'elles trouvent la vie ou le bonheur. Et il y a cet exemple, j'ai trouvé intéressant de le prendre. C'est une histoire vraie, c'est un maréchal dans l'armée de Napoléon, un maréchal qui était profondément dévoué à Napoléon, qui était profondément attaché à Napoléon, qui lui était obéissant en tout point. Dans une bataille, il a été mortellement atteint. Bon, ça arrive. Et comme sa fin approchait et qu'il était en train d'agoniser, il a fait demander son chef, « Faites-moi venir Napoléon, faites-moi venir Napoléon !» Et quand Napoléon est arrivé, il lui a dit, ben, « Napoléon, est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour moi? Je suis en train de mourir. Est-ce que tu ne peux pas me guérir? Est-ce que tu ne peux pas faire quelque chose pour moi ?» Et lui, il était persuadé que son empereur, son chef, il pouvait lui faire quelque chose. Il s'était tellement attaché à lui, il avait tellement obéi à tous ses ordres, il était tellement dévoué à sa personne, il pensait qu'il allait pouvoir faire quelque chose. Et alors qu'il était là en train de plaider, « Fais quelque chose pour moi, Napoléon, je t'ai servi tant et tant d'années. » Il était là en train de le supplier avec ardeur. Vous savez ce qu'il a fait, Napoléon ? Il a simplement secoué la tête avec tristesse et il s'est détourné. Et alors que, je le lis, alors que la main impitoyable de la mort commençait à se resserrer sur lui et que Napoléon était parti, on entendait la voix du soldat qui criait « Sauve-moi, Napoléon ! Sauve-moi !» Et il a crié ça jusqu'à sa mort, qui est arrivée peu après. Et à l'heure de la mort, du moins les minutes avant, puisqu'à la mort il ne pouvait plus le savoir, s'en rendre compte, mais quelques minutes avant sa mort, il a découvert que même le puissant Napoléon ne pouvait pas lui donner la vie, ne pouvait pas venir ne pouvait pas répondre à tous ses besoins. Le seul qui est capable de donner la vie, et la donner même en abondance, c'est Jésus-Christ, c'est Jésus le bon berger, celui qui donne la vie avec profusion. Oui, le bonheur et la grâce me poursuivent. Je prends encore la version littérale. Le bonheur et la grâce me poursuivent tous les jours de ma vie. Quand on choisit Jésus en tant que bon berger, c'est pas, on ne court pas après le bonheur et la grâce, mais le bonheur et la grâce nous poursuivent parce qu'on a choisi de suivre le bon berger. Et c'est plus un combat de tous les jours. Je veux être heureux, je veux découvrir le bonheur, je veux être dans la paix. Mais du moment que Jésus est mon bon berger, je suis dans la paix, j'ai le bonheur, je connais la grâce. Toutes ces choses sont en moi, je bénéficie de toutes ces choses parce que Jésus est mon bon berger. Et je reviendrai, et là c'est intéressant de le souligner, parce qu'on n'a pas l'habitude. D'habitude c'est « j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours », ça on le connaît bien. Mais j'ai trouvé intéressant de souligner cette dernière phrase. « Je reviendrai dans la maison de l'Éternel à longueur de jours. » Littéralement, c'est ce qui est écrit. Et je trouve que ça parle beaucoup plus. Parce que j'habiterai dans la maison de l'Éternel, des fois on a l'impression qu'il faut venir habiter dans l'église. C'est bien parce qu'il y a une maison à côté, on pourrait le faire, mais ce n'est pas le verset, c'est pas la pensée biblique. La pensée biblique, c'est que je peux revenir jour après jour dans la maison de l'Éternel, à longueur de journée même, plusieurs fois dans la journée, j'ai accès à cette présence de Dieu, à cette communion avec Dieu, avec ce bon berger. Et il y a cette image dans le peuple d'Israël, il y avait le sacrificateur qui portait une robe, un habit particulier, et sur ses épaules il avait des diamants, je ne sais plus dans quoi ils étaient exactement, mais je sais que dessus il y avait le nom de toutes les tribus d'Israël. C'est comme si le sacrificateur, il portait sur ses épaules tout le peuple d'Israël. Et c'est comme si aujourd'hui, notre bon berger nous portait chacun avec notre nom inscrit sur ses épaules. Chacun, il nous portait individuellement sur ses épaules. Et il avait non seulement ça sur ses épaules, mais il avait aussi un poitrail, un pectoral avec 12 diamants qui représentaient les 12 tribus d'Israël, chacune avec leur nom. Et c'est cette image que Dieu porte sur nos cœurs, sur son cœur, pardon. Il nous porte chacun avec notre nom. D'ailleurs, il y a ce verset qui a dit qu'il nous a gravé dans ses mains. L'Éternel nous a gravé dans ses mains. Quelle promesse merveilleuse, quelle idée impressionnante et étonnante de penser que le Dieu de l'univers nous a gravé chacun individuellement dans ses mains. Est-ce que ce soir, nous pouvons dire chacun pour notre part, oui, l'Éternel, Dieu est mon berger. Dieu est mon berger, c'est-à-dire c'est mon berger à moi. Et je ne peux pas prendre Dieu comme ton berger. Je ne peux pas prendre Dieu comme berger à ta place. C'est chacun qui doit dire, Dieu est mon berger. Si ce n'est pas le cas, est-ce que quelqu'un ce soir peut-être voudrait de Jésus comme berger, comme cette personne qui veut le guider sur le bon chemin, dans les sentiers de la justice? Et on se rend compte que les sentiers de la justice, des fois, ils passent par l'ombre de la mort, par la vallée de l'ombre de la mort. Mais ce sont quand même les sentiers de la justice. Et quand même, on sait qu'on ne craint aucun mal, parce que Dieu est avec nous. Ça, c'est la promesse de Dieu. Est-ce que ce soir, on veut de ce Dieu, de ce Jésus, comme bon berger? Est-ce qu'on veut goûter à sa provision, à ce berger qui prend soin des brebis? Est-ce qu'on veut goûter à sa protection divine, à celui qui prend soin de nous en tout temps, qui nous garde, qui nous protège de tout mal? Est-ce qu'on désire accéder à sa profusion de vie et d'amour qu'il veut répandre sur nous? C'est une question que je vous pose et je la laisse sur vos cœurs. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que tu t'es humilié, Seigneur, en devenant semblable aux hommes. Et non seulement semblable aux hommes, mais tu t'es humilié encore pour être un serviteur, afin que tu sois à la croix immolé comme un agneau, sans tache, sans impureté. Et tu as pris notre place, mais tu es ressuscité, Seigneur. Et maintenant, tu es ce bon berger, tu veux être ce bon berger, celui qui marche devant nous, qui nous guide sur le chemin de la vie. Seigneur, nous voulons être ces brebis, nous voulons renoncer à nous-mêmes, à croire que par nous-mêmes nous valons quelque chose. Nous voulons, Seigneur, saisir dans cette soirée que tu es le bon berger, que tu veux notre bien, que tu nous aimes avec passion, que tu nous aimes avec tendresse, que tu nous aimes avec bonté, que tu es bienveillant envers nous, Seigneur. Que toutes ces choses, tu veux nous les donner, tu veux nous communiquer ta paix dans ce monde où tout s'agite. Tu veux nous communiquer le calme, tu veux nous communiquer, Seigneur, la confiance, parce que c'est toutes ces choses qu'on les trouve en toi. Merci pour la grâce, parce que tu nous permets d'être saisis par elle, Seigneur, par la foi en toi, et nous pouvons être délivrés, secourus dans tous nos besoins. Merci parce que nous savons que nous avons un appui ferme et solide en toi. Alors viens dans cette soirée toucher nos cœurs encore. Viens dans cette soirée te révéler à nos cœurs, comme ce bon berger. Aide-nous à te suivre, aide-nous à t'obéir, aide-nous à te suivre avec confiance, avec certitude que tu nous envoies, que tu nous mènes dans les verts pâturages, Seigneur. Gloire à ton nom. Amen.